Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue dans Cinérama, avec aujourd'hui trois films, une interview et un blind test. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors chacun un film. Toi Manu.
La fièvre, un film brésilien.
Et puis toi Guillaume.
Le procès de l'herboriste.
Ah voilà, on fait vite. Et puis il y aura aussi le film Teddy des frères Ludovic et Zoran Boukerma. Ce sera l'occasion d'écouter une interview des deux frères. Et puis on jouera un blind test spécial fiction politique à l'occasion de la sortie du film d'Anne Fontaine, Président. Mais nous allons commencer avec le procès de l'herboriste. Après l'ombre de Staline, la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland nous emmène en Tchécoslovaquie auprès d'un des plus grands guérisseurs et herboristes de son époque, dont le nouveau gouvernement va faire le procès.
This is Cinérama.
Et ça c'est clair.
Sortez vos flacons. Tout le monde a bien son flacon.
L'année dernière, à l'exact même moment, nous avons eu sur grand écran l'ombre de Staline. Et cette année, nous avons le procès de l'herboriste. Les habituels sujets qui composent les films dits d'époque ou qui tournent autour des conflits principaux du XXe siècle ayant vraisemblablement temporairement lassé le grand public, il semblerait qu'on se tourne enfin pleinement vers les horreurs des régimes communistes. Et si le goût vous semble familier, c'est normal. Derrière ce procès et l'ombre de Staline, il y a la réalisatrice polonaise donc Agnieszka Holland, décidément très en forme en ce moment. Mais est-ce que prolixe rime avec réussite? Rien n'est moins sûr.
Mais pourtant, à l'hôpital, ils ont bien dit que la polio lui déformait les jambes.
Ah oui, c'est ce qu'ils vous ont dit. Montre-moi. Votre docteur est un idiot. Yann Mikolasek, au nom de la République, je vous arrête.
Pour quelle raison?
Depuis 1936, vous exercez en tant qu'expert herboriste certifié. C'est quoi ces foutaises?
Mais avant de parler du film, un peu de mise en contexte. Jan Mikolasek, le héros du film, a vraiment existé et était un médecin aux méthodes de guérison et de diagnostic non conventionnelles. Ses compétences particulières avaient fait de lui un homme aussi célèbre que riche. En Tchécoslovaquie, avant la Seconde Guerre mondiale, il devint une référence et parvint à conserver cette position sous l'occupation germanique en soignant des fonctionnaires nazis de haut rang. La réalisatrice explique ce qui va forcément nous faire nous poser des questions sur la moralité du bonhomme. Alors je cite, « Il était convaincu que rien ne changerait après la guerre, les communistes qui avaient pris le pouvoir en 1948 étaient des êtres humains comme tout le monde. Ils tombaient malades, désespérés et avaient besoin de docteurs comme tout le monde. Ils trouvaient en lui un médecin différent qui savait les aider là où les autres médecins avaient échoué. Mais la situation changea du tout au tout à la mort de son principal protecteur stalinien. Le régime en place décida alors de le détruire. Il était trop différent, trop riche, trop indépendant. » Donc voilà, la preuve que l'argent et le pouvoir qui pouvaient en découler ne sont pas que des problèmes propres au capitalisme.
Fatigue générale, feuille de cassis, pensée sauvage, feuille de bouleau.
Je peux savoir qui tu es?
Le fils du jardinier. J'aimerais apprendre à soigner les gens comme vous. Je suis sûr d'avoir le don. Les intestins.
Non, c'est le foie. Il y a encore beaucoup à voir.
Et qu'est-ce qu'elle t'enseigne? À lire dans une boule de cristal? Elle soigne les gens. Ne discute pas, tu ne sors pas d'ici.
Jan Mikolasek dérange. Dans un élan quasi suicidaire, il se sait condamné par un régime qui resserre petit à petit ses griffes autour de lui, mais va assurer jusqu'au bout ses fonctions et son travail, qu'il semble juger comme étant plus grand que lui. Ce passionné de plantes et de leurs vertus médicinales, devenu l'un des plus grands guérisseurs de son époque, a consacré sa vie à soigner sans distinction les riches comme les pauvres, les Allemands nazis sous l'occupation comme les fonctionnaires communistes d'après-guerre. C'est cette transparence totale qui va causer sa perte, car sa popularité en apparence légitime finira par irriter les pouvoirs politiques jamais avant de mettre en pratique leurs exactions fascistes. Finalement arrêté et accusé de charlatanisme, Mikolasek doit alors prouver le bien fondé de sa science lors de son procès, bien évidemment truqué et dont le déroulement est écrit d'avance. Mais il va être tout autant question de la pratique médicale que de l'homme derrière les diagnostics bien plus complexes que ce qu'il n'y paraît. Car Yann n'est pas forcément qu'un altruiste, c'est aussi un être humain qui a des failles, des désirs et des manquements que les moments compliqués de l'histoire qu'il va traverser vont parfois dramatiquement amplifier. Cette complexité nous est montrée à travers toute une série de flashbacks qui vont nous plonger dans le passé de Yann et nous expliquer toutes les choses qu'il arrive à accomplir grâce à sa maîtrise des vertus de la flore. Ces flashbacks, qui commencent étrangement, d'un point de vue structurel, avant son arrestation, sont bien évidemment appuyés par un grain insistant, ce qui sera d'ailleurs la seule véritable marque esthétique d'un film qui brille par un ascétisme quelque peu lénifiant. Car c'est là que tout s'écroule. Agnieszka Holland avait su créer d'intéressants moments de cinéma, il n'y a pas plus tard que non, avec L'ombre de Staline, en particulier avec des longues plages de silence qui amplifiaient l'horreur de ce que découvrait progressivement son héros dans l'arrière-pays. Ici, la mise en scène, dénuée de toute imagination, illustre les pages d'un scénario qui semble intéressant sur papier, mais qui se retrouve quasiment dénué de toute vie devant cette triste incarnation insufflée pour le grand écran. Il en devient même étonnant de penser que le procès de l'herboriste, charlatan de son vrai nom, a trouvé le chemin des salles chez nous, tant il ressemble à un téléfilm épuré, à la photographie désaturée, sans aucun choix artistique fort derrière. On rappelle que le commerce premier du héros provient des plantes et donc de la nature. Le seul jeu de couleurs notables provient des échantillons d'urine que Yann a appris à décrypter à l'œil nu. Laissons le mot de la fin à la réalisatrice. C'est l'histoire du mystère d'un homme, du mystère d'un don et du prix qu'il est prêt à payer pour le préserver. C'est l'histoire du paradoxe entre la force et la faiblesse, entre l'amour et la haine. J'ai essayé de trouver un langage sensuel et minimaliste qui pourrait refléter à la fois le récit intime et le caractère épique de cette histoire, histoire qui se déroule sur plusieurs dizaines d'années, sous trois régimes politiques différents et durant deux guerres mondiales. Un langage statique, silencieux, des dialogues rudimentaires, des émotions cachées. Le temps ici devient très subjectif, les années passent en quelques minutes, les minutes sont allongées et semblent durer une éternité. Malheureusement pour moi, je confirme, malgré un fond intéressant, mais vraiment, parce que le personnage est particulièrement intriguant, le spectacle semble malheureusement très long.
Alors moi, je vais quand même contrebalancer ton avis. J'ai plutôt été captivé parce que cette auscultation à partir de flacons d'urine, alors déjà, ça c'est bluffant. Enfin, j'avais peine à croire que ce personnage était vraiment réel. Je ne savais pas qu'on pouvait décrypter tout un tas de choses en regardant des tubes d'urine.
C'est digne de Molière, du médecin volant.
Sachant qu'il faut l'observer quand même dans un rayon de lumière bien précis. Enfin, voilà. Donc c'est complètement bluffant. Et de plus, le personnage de l'herboriste est volontiers trouble. Alors elle en parle. Quand tu l'as cité, elle en parle de ce trouble, effectivement. La mise en scène appuie ce trouble par l'entremise de portes, de vides, de fenêtres. Alors, il n'est bien qu'avec son amant au milieu de la nature, ça c'est très appuyé. Tout le reste l'enserre, même s'il se dévoue à ses patients, et riche comme pauvre. Donc ça, on voit bien une espèce de... Alors, c'est plus qu'une duplicité, c'est vraiment une espèce de personnage morcelé. Alors, la mise en scène est classique, plus que lignifiante quand même. Il y a quand même des nombreux mouvements de caméra. Enfin, c'est quand même une mise en scène qui est ample. Alors, tu parlais d'austérité, je ne sais pas si c'est austère, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle n'est pas exubérante. Voilà. Y a une multiplication des espaces avec des tonalités marquées, notamment quand ils sont dans la nature, contrairement aux intérieurs, qui sont plutôt glaciales. Et le spectateur est plutôt pris par la main. Alors, c'est peut-être ça qui fait que c'est pour toi un téléfilm, mais voilà. Moi, c'est quand même un film que je recommande. Hein. Le procès de l'herboriste, il a de quoi étonner. Effectivement, il tisse un trait vraiment sur, comme elle le dit, sur trois périodes, parce que dans ces flashbacks, on va dans la guerre, ensuite on va jusque dans les années 70, parce que c'est à cette époque qu'il est mort.
C'est pour ça que j'ai préféré lui donner la parole dans la chronique, parce que elle a un vrai sens visuel, comme on l'a prouvé pas plus tard que l'année dernière avec Dans l'ombre de Staline, où on a un personnage qui est candide et qui va découvrir l'horreur de la complexité de la noirceur humaine. Mmh. Et là, le personnage est très complexe d'entrée, c'est un peu l'inverse, et je trouve qu'elle a fait un traitement trop sec, mais ses intentions étaient clairement établies. Je préfère lui donner la parole.
Tu as bien fait. On passe maintenant à Teddy. Après l'étonnant Willy Ier, les jeunes frères Boukerma nous emmènent au pied de la montagne dans les Pyrénées-Orientales aux prises avec un loup-garou dans un film qui oscille entre comédie, drame et horreur. On va pouvoir entendre les deux réalisateurs après la chronique de Marine.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Teddy est un adolescent dans un petit village des Pyrénées. Sa copine s'apprête à passer son bac. Lui est un peu perdu quant à son futur. Il vit avec son oncle et sa grand-mère en marge des autres habitants. C'est un jeune homme qui a pas mal de colère en lui, d'ennui et de frustration, et qui un soir va se faire attaquer par une mystérieuse créature dans la forêt, puis commencer à ressentir dans son corps certaines transformations. Teddy, deuxième long métrage des frères jumeaux Boukerma, passé par l'école de Luc Besson, qui se réclame autant de la culture geek que de Bruno Dumont, raconte avec beaucoup de second degré la revanche d'un outsider, la naissance, la maturation d'un monstre dont on ne saura jamais vraiment s'il est réel ou dans l'imaginaire du héros. La dimension symbolique de cette transformation est large. On pourrait établir un parallèle avec la transformation en super-héros de Spider-Man, qui est clairement une métaphore de la puberté. La transformation apparaît ici comme une expression épidermique du passage à l'âge adulte, face aux incertitudes du futur, à la fin d'un premier amour, et il est beaucoup question également de virilité dans Teddy, le loup-garou pouvant être vu comme l'incarnation d'une virilité trop puissante et surtout mal contrôlée. La force du film, c'est également de prendre pour contexte une certaine France rurale, celle des Pyrénées, dans laquelle on tente de réintégrer le loup, justement, le loup, l'animal, et le dispositif scénique implante réellement l'action au sein du territoire, en mélangeant acteurs non professionnels choisis parmi la population locale, comme Laurent Torrent, et comédiens de métier, comme l'excellente Noémie Lvovsky.
Un loup, c'est comme un renard, ça va tout te tuer,
non,
pour manger quatre merdes.
C'est le loup,
faites une battue, et si vous savez pas la faire, nous, on s'en occupe pas.
Moi, je vous parle, là.
Bon, qu'est-ce que tu fous là, toi, con? Tu vas te prendre un outrage.
C'est bon, je reste derrière le scotch. Ça sert à quoi d'en mettre, sinon? C'est le loup ou pas? Hé, gros!
On ne sait jamais réellement hein, si les réalisateurs, ce qui se réclament par ailleurs de cette France profonde dans laquelle ils ont grandi, la filment avec tendresse ou sarcasme, mais toujours est-il que l'humour noir, omniprésent dans le film, fonctionne très bien, tout autant que les choix de mise en scène. Puisque dans Teddy, c'est un loup-garou sans artifice, sans déguisement, presque sans effets spéciaux que l'on nous propose et qui repose entièrement sur le jeu de Anthony Bajon. Anthony Bajon, un comédien que l'on avait découvert dans La Prière et dans Au nom de la Terre et qui appartient à cette génération de jeunes acteurs comme Vincent Routier, Rod Parado, Kevin Azaïs, qui ne sont pas issus à la base du cinéma, mais davantage d'un milieu populaire et qui offrent toujours une puissance d'incarnation très marquante avec un jeu des plus instinctifs. Le fait d'éviter la confrontation aux effets spéciaux en redoublant d'inventivité dans la mise en scène, dans le jeu d'acteur, a aussi bien sûr des raisons économiques. C'est tout cela qui fait de Teddy un film de genre à la fois plein d'idées et d'autodérision. Par exemple, comment créer un plan dérangeant avec quelque chose d'aussi simple qu'un poil d'homme ? Eh bien, en le faisant pousser dans un œil ou sur une langue. On ressent hein, les influences plurielles des réalisateurs dans l'alternance également de plans un petit peu sales avec celles de plans très soignés, filmés au ralenti, au drone. Et cette cohabitation de style eh bien, s'avère très rafraîchissante, donnant l'impression d'une créativité décomplexée pour un film tout à fait réjouissant.
Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, il n'y a plus rien.
Je vous jure, hier, il y avait des poils.
Vous avez fumé un peu quand même hier?
Non.
Non?
Non.
T'es sûr?
On a pris des champis avec ma copine, mais on en prend souvent.
M'étonne pas que tu aies eu des poils sur la langue et que tu les as rasés. Si tu te mets à hurler à la lune ou à te transformer en loup-garou, tu pourras revenir me voir.
C'est drôle, ça.
Mais non, je plaisante. On est médecin, mais on a de l'humour quand même.
This is Cinerama.
Ludovic et Zoran Boukerma reviennent sur la construction de leur film Teddy et on remercie Caroline Hérault d'avoir recueilli ses propos.
Bonsoir. Approchez, approchez. Je me présente, je m'appelle Teddy Privot, je suis le copain de Rebecca depuis 8 mois.
On a dit que t'avais foutu le bordel au village.
Mais non, j'ai pas foutu le bordel.
Et...
Dégage maintenant. Hein.
Ah, vous puez l'alcool.
Avec Zoran, on a grandi dans le Lot-et-Garonne, donc c'est pas là où on a filmé vers Perpignan, mais on avait à cœur de filmer justement la ruralité où nous on a grandi. C'est que nous on est assez fans de films de genre depuis qu'on est gamin. En fait, quand on était petit, notre mère nous lisait les nouvelles de Stephen King avant qu'on aille dormir, plutôt que de nous lire des contes de fées. Je crois qu'on était assez fans de ça. Et ensuite, quand on a été un peu plus vieux, on a découvert aussi toutes les adaptations possibles et imaginables, je crois, des bouquins de Stephen King. Les bonnes adaptations, genre les films de De Palma, Carrie ou Shining de Kubrick, mais aussi les espèces de mauvais téléfilms qui passaient sur M6 l'après-midi, que nous on adorait regarder aussi. Et on était assez fans aussi de la série des Contes de la Crypte, ou les films de Carpenter, enfin tous les films de genre un peu de cette époque-là. Et nous, ça nous permettait un peu de nous évader de cette campagne du Sud-Ouest qu'on n'aimait pas trop, parce que je pense qu'on s'ennuyait quand même pas mal quand on était petit. On a grandi vraiment au milieu des champs et on n'était pas spécialement populaire à l'école, etc. Et donc ce qu'on voulait, c'était un peu amener ces figures de monstres qui nous permettaient de nous évader quand on était petit dans la campagne qu'on a connue, en mettant en scène des gens qui avaient le parler des gens que nous on fréquentait quand on était petit, etc. Quoi.
Tu penses à la gratitude ?
Tu vois ça ? 90 mètres carrés habitables, piscine creusée et pergola.
C'est quoi une pergola ?
J'entends toujours les gens dire « Oui, il fait grand beau, ce soir nous dînerons sous la pergola. » Et je me dis « Nique sa mère, il nous en faut une.
Enfin, » Peut-être que je parle que pour nous, mais j'ai l'impression que nos générations à nous assument plus facilement d'avoir des références un peu multiples. J'ai l'impression qu'en France, il y a longtemps eu une scission entre le cinéma populaire, qui était un peu regardé de haut, entre guillemets, et le cinéma d'auteur sérieux, etc. Et nos générations à nous, je pense qu'on a grandi un peu avec un mélange de références, en fait. On a baigné dans le cinéma hollywoodien, nous, on a grandi avec les films populaires, avec les films de Spielberg, de Zemeckis. Et je pense qu'on assume ces références-là plus facilement. On est des générations qui pouvons regarder un Fellini ou lire un bouquin le matin et jouer à la Play le soir sans que ce soit un problème. Enfin, je pense qu'on a une espèce de pluralité de références et peut-être que du coup ces deux mondes-là s'interpénètrent plus facilement et du coup il y a peut-être une envie des jeunes générations de s'émanciper un peu des cases et d'aborder peut-être le cinéma de manière plus je sais pas plus libre, mais en tout cas d'assumer diverses références. Et du coup c'est peut-être pour ça qu'il y a cet engouement pour le genre que Grave, effectivement, a un petit peu contribué, je pense, à faire émerger. Je pense que c'est que Grave a bien marché. Et du coup, ça a peut-être donné des envies ensuite à d'autres cinéastes. Et ça a permis de rendre la chose possible pour beaucoup. Hein.
Hey, c'est Lou, la tête de ma mère, j'arrive.
C'est comme ça qu'on pense nos films quand on les écrit. On aime bien commencer par de la comédie et ensuite laisser place à peut-être plus d'émotions et de drames. Je crois que c'est un truc vraiment de goût. Nous, enfin, je sais que quand nous on va au cinéma, on aime bien être aussi ému quand on voit un film. Donc ouais, c'est vraiment un truc de goût pour le coup. On se voyait pas faire de la parodie pure et en même temps c'est assez dur, le Loup-garou, parce qu'il y a, pour qu'on y croit, enfin, il y a une espèce de dosage. Et soit on fait vraiment que de la parodie et du coup on accepte le Loup-garou parce qu'on est dans un registre comique, soit on fait que du drame. Mais on avait l'impression que faire un film de Loup-garou trop sérieux, on aurait du mal à y faire croire. Et du coup, on avait l'impression que mélanger un peu les deux, c'était une façon de. C'était un équilibre pour qu'on y croit, tout simplement qu'on accepte la figure du Loup-garou.
Oh, Didier! Croque-mitaine.
Ah, le maudit voit son corps changer à mesure que les pulsions de chasse l'envahissent.
Daisy, attends, tu me fais mal, là.
C'est dur de savoir si on va faire peur ou pas. Je sais pas si on voulait spécialement faire peur ou pas.
C'est le gore, en tout cas.
En tout cas, pour le gore, nous, ce qu'on voulait, c'était juste... déjà, ça nous amusait un peu de... Nous, on est assez sensible à ça dans les films des autres. Enfin, on est les premiers à se cacher les yeux, je crois. Mais le body horror, c'est un peu une tradition qu'on aimait bien. Et... Voilà.
Mais le plus dur, ça a été de switcher aussi un peu entre les genres. C'est vrai
entre l'humour et de passer du
humour. Ce qui
était
un peu compliqué, ce qui nous faisait peur, je pense, sur le tournage du film, c'était comment est-ce qu'on allait réussir à passer de la comédie à l'horreur, de l'horreur au drame. Il y avait un peu tous ces enjeux-là qui n'étaient pas. On ne savait pas comment ça allait se mélanger. C'est vrai qu'au tournage, on s'est souvent donné quand même le choix. C'est-à-dire que dans les séquences, même dans les séquences d'horreur, on a toujours fait des versions qui étaient plus décalées, qui étaient soit plus drôles, soit plus dramatiques, soit plus horrifiques, pour essayer de se dire qu'au montage, on pourrait essayer de rétablir un équilibre dans tout ça.
Qu'est-ce que tu manges ?
Fromage de tête.
D'habitude, tu prends des chocopiques ?
Teddy, des frères Zoran et Ludovic Boukarma, est dans les salles depuis le 30 juin. Nous passons maintenant au blind test de cette émission.
Avec vous, j'ai du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
À l'occasion de Président, avec un S, film d'Anne Fontaine, dans lequel deux ex-présidents s'associent pour une reconquête du pouvoir avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois, film qu'on n'a absolument pas vu et qu'on ne verra peut-être pas, eh bien, nous allons jouer à un blind test spécial politique. Où on voit des hommes politiques, ou en tout cas, le film décrypte l'univers politique. Premier extrait, à mon avis, ça va être assez facile. Ce sont des films plutôt après 2000.
Alors, il t'a donné quoi finalement ? Le Honduras ?
Pourquoi le Honduras ?
Quand même, on y était deux fois en vacances, j'espère que tu lui as dit.
Ouf, bah non. Non, il m'a donné le langage.
Le langage? C'est quoi le langage? Tu veux leur donner des cours de diction?
Mais non, le langage, c'est... Ben, c'est ce qu'il faut dire. Mais Armini, ça peut pas parler à tort et à travers. Hein. Je veux dire, un mot de trop, tu déclenches une crise internationale. Hein. Enfin bon, on m'expliquait tout ça, mais...
Et ça t'ennuie pas de bosser pour un mec de droite?
Mais de droite? Mais non, tu sais, son truc, c'est vraiment l'intérêt général. Hein. En plus, il a pris un dire cap de gauche, alors... Et puis je crois qu'il va vraiment vite tenir tête aux Américains.
Alors, trouvez, Manu.
C'est Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier.
Oui, film de 2012 avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz et Niels Harelstrup qui a remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle. Donc c'est adapté de Quai d'Orsay, la bande dessinée du même nom de Christophe Blain et Abel Lanzac. C'est l'histoire du jeune Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l'ENA, qui est embauché en tant que chargé du langage au ministère des Affaires étrangères, où là on trouve eh bien, le grand, le magnifique, le séduisant Alexandre Teilhard de Worms, qui est à peine Dominique de Villepin. 887 000 spectateurs en France. Deuxième extrait pour ce blind test spécial politique à l'écran.
Assieds-toi. Tu as vu ma situation, je suis un vieillard malade. Tu crois que je peux supporter ça? Des attaques à dominem, et puis après quoi, la dignité nationale, et pourquoi pas de la prison? Tu sais ce que j'ai lu sur moi hier? Sa vie privée, elle non plus, ne fut pas exempte de rumeurs. Qu'est-ce que c'est que ces salmigondis? Des histoires de fric qui retombent sur mon intimité. On croit rêver.
Frédéric, on est dans le même bateau. J'ai besoin de votre aide. Il faut qu'on passe par vos amis dans la magistrature pour calmer cette juge. C'est tout.
Je vais te répondre en trois points. Un, je ne peux pas le faire. Deux, je ne veux pas le faire. Trois, je ne vais pas le faire.
Alors c'est président.
Oui, de Lionel Delplanque, film de 2006 avec Albert Dumontel, Jérémy Régnier et Claude Riche, qu'on entendait dans cet extrait. Coulisses du pouvoir ou la vie quotidienne d'un président qu'une affaire pourrait déranger. 312 000 spectateurs se sont déplacés en salle pour le voir. Troisième extrait de ce blind test.
Monsieur le ministre.
Oublie le ministre, il n'y a pas de ministre qui tienne, il n'y a pas de conseiller, je te parle d'homme à homme. Tu veux me lâcher?
Monsieur le ministre, nous sommes attendus.
Tu es avec moi ou contre moi?
À Matignon dans une...
Merde! Ce n'est pas quelques gars qui vont bousiller 10 ans d'une amitié comme la nôtre. Pas toi, Gilles. Si toi, tu fais défaut à l'estime, sur qui je peux m'appuyer, moi? Sur qui?
Quelques gars.
Oui, quelques gars.
C'est une révolution du territoire. Vous ne faites pas une révolution avec des doutes.
C'est ainsi que tu le vois, ce n'est pas ainsi que je le vois. Moi, je vois une amitié. Et cette amitié nous oblige, toi comme moi.
C'est L'exercice de l'État, oui. Peut-être un des meilleurs films politiques français. Avec un autre, je ne dis pas parce qu'on ne sait jamais s'il apparaît.
Je ne crois pas que je l'aime. Film de 2011 de Pierre Scholler avec Olivier Gourmet et Michel Blanc qu'on entend. Et puis on ajoute Zabou Breitman. Vitesse, lutte de pouvoir, chaos, crise économique. On suit pendant un court laps de temps le ministre des Transports alors qu'un car a basculé dans un ravin. 523 000 spectateurs en France. Quatrième extrait.
Voyez-moi, j'ai toujours eu des idées. Au début, c'était même mon métier. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Je travaillais dans la publicité. Et puis, assez jeune, j'ai fait de la politique. J'ai organisé des campagnes électorales. J'ai travaillé dans des ministères. J'ai conseillé énormément de monde. Les idées venaient toutes seules, dès le réveil. Hein. J'utilisais même un petit dictaphone pour ne rien oublier. Puis après, je me suis présenté à des élections. J'ai mené des équipes. J'ai conduit des projets très importants jusqu'à leur terme. Je peux dire qu'en toute modestie, j'ai profondément changé ma ville. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. Enfin, ça s'est pas passé comme ça, hein, exactement. Mais enfin, vous voyez à peu près ce que je veux dire.
Trouvé.
Et c'est Alice Hellemer de Nicolas Parizé et qui a fait un autre film qui est très bon sur la politique qui s'appelle Le Grand Jeu.
Et donc celui-ci est sorti en 2019 avec Fabrice Lucchini, Anaïs Desmoustiers. Après 30 ans dans la vie politique, donc le maire de Lyon est un homme fatigué, en manque d'inspiration, et son équipe lui adjoint alors une jeune philosophe, Alice Eman, pour le stimuler intellectuellement. César 2020 de la meilleure actrice pour Anaïs Desmoustiers. Et puis, pendant qu'on y est, 723 000 entrées en France. Ce dernier extrait de ce blind test, je l'ai fait un peu pour m'amuser.
Merci. Et merci à vous, Monsieur le Président, pour ces paroles. Mais je n'ai fait que mon job.
Cher Franck, j'ai décidé de créer dès ce soir un poste spécial pour vous. Il impliquera des journées de 20 heures, des nuits infernales, et vous serez entouré par les plus ignobles éléments de la société.
Vous voulez me prendre dans votre cabinet?
Non. Non, je...
C'est trouvé.
Y a-t-il un flic pour sauver le président ?
Oui, de David Zucker, film de 91 avec Leslie Nielsen. Après, la reine, eh bien, Frank Drebin, hein, le flic gaffeur, doit sauver le président des États-Unis. Bon, c'est un peu décalé par rapport à ce blind test, mais je voulais quand même terminer comme ça. Et c'est près d'un million d'entrées en France pour ce film. Ainsi s'achève donc ce blind test. Nous allons maintenant terminer avec un film peut-être un peu confidentiel. Un agent de sécurité au cœur de la forêt amazonienne est saisi d'une fièvre mystérieuse. Eh bien, ça s'appelle La Fièvre.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
Amanos, hein, ville industrielle située au cœur d'une Amazonie qui se meurt, Justino, amérindien de l'ethnie de Desana, exerce la fonction de vigile dans le tentaculaire port de commerce. Alors, il s'emploie à la tâche, hein, sans excès de zèle, promenant un détachement nécessaire vis-à-vis de son environnement entre un collègue affichant son racisme ordinaire et une DRH quelque peu méprisante. Sa fille, aide-soignante dans un hôpital qui recueille une certaine misère humaine, grâce à ses brillants résultats aux examens, est sur le point de partir poursuivre ses études de médecine à Brasilia. Alors la visite inopinée du frère de Justino, hein, qui adopte toujours un mode de vie traditionnel, fidèle à ses ancêtres, lui rappelle la vie dans la forêt. Alors l'anamnèse, hein, qui l'étreint, l'amène à s'interroger sur le sens de son existence. Au même moment, Justino est saisi d'une fièvre mystérieuse. Alors, est-ce le résultat d'un malaise refoulé, hein, qui se traduit physiquement, l'ambivalence en fait, d'un homme qui cherche son ancrage entre une vie occidentalisée et celle de l'Amazonie, une allégorie de notre monde moderne malade, ou encore, alors là, la présence d'un animal sauvage qui hante les nuits de Justino et emmène un peu le film vers des contrées plus opaques où le fantastique ne paraît jamais très loin. Alors d'ailleurs, cette présence-absence d'une bête sauvage, hein, hors champ, n'a rien de gratuit. Elle s'inscrit dans le rapport que les Amérindiens ont avec la maladie. Le corps du malade se définit toujours en relation avec les autres créatures de la forêt, que ce soit les hommes, les animaux ou les esprits. Alors la maladie n'est jamais isolée, elle forme un tout lié à l'environnement. Les chamans posent le diagnostic et trouvent le remède en fonction de ces données. Alors chaman lui-même, un étonnant interprète principal, Régis Mirupu, n'a rien d'un professionnel, même s'il est apparu furtivement dans quelques rôles secondaires. C'est un Amérindien du CRU, hein, qui a aidé pendant, sur quelques années, la réalisatrice à écrire le scénario. Il est habité par son personnage impassible, au regard étrange, alors un mélange de bienveillance et de déconnexion passagère avec le monde. Alors son attitude ambiguë pourrait passer pour de l'indifférence. Or, il s'agit de quelque chose de plus triste et mélancolique qui traverse Justino, symbole à lui tout seul de ce qu'endure tout un peuple broyé par l'occidentalisation d'un pays. Alors d'où le Brésil, en l'occurrence, hein, d'où cette impression de forte authenticité, hein, autant dans la manière de filmer la zone industrielle, un décor écrasant avec ses gigantesques containers, ses grues et ses grandes places bétonnées, que dans les incursions à l'intérieur de la végétation forestière proche du réalisme magique. La réalisatrice, hein, Maya Danring, prête son expérience du documentaire à la fiction avec un talent impressionnant. Il se dégage de La Fièvre à une force et une évidence dès les premiers plans qui allient sophistication et naturalisme, deux termes que l'on oppose souvent bêtement. En effet, le sens de l'observation du quotidien, l'acuité avec laquelle la réalisatrice suit ses personnages tous incarnés, ne l'empêche pas de faire du cinéma, de composer une série de plans fixes magnifiquement cadrés, saisissant une atmosphère pesante et étrange, parfois proche de l'onirisme. Alors le hiératisme un peu de la mise en scène qui rappelle parfois le très beau Los Silencios de Béatrice Seigné, autre film d'Amérique du Sud sorti l'an dernier d'ailleurs, peut mettre le spectateur à distance et le perdre par la lenteur excessive d'un film qui ne cherche pas à prendre le spectateur par la main, mais à l'inviter à partager intérieurement l'expérience sensorielle et mystique du personnage principal. Une expérience qui ne va peut-être pas assez loin, notamment dans sa dimension surnaturelle, juste effleurée, engendrant une certaine frustration. Mais derrière le propos politique subtilement amené à travers la maladie, hein, métaphore du mal-être, hein, d'un déraciné qui hésite entre le monde moderne et le retour à la vie primitive, La Fièvre devient quasi hypnotique, hein, grâce au somptueux travail sur le son qui déploie une musicalité sans avoir recours à une seule note de musique. Le bruissement des insectes et le son des machines de la zone portuaire qui finissent par interagir ensemble créent vraiment une ambiance sonore singulière qui contamine l'aspect visuel du film et d'ailleurs tout le film en lui-même. Maya Darin a tenté, réussi en partie, de dresser un constat pessimiste mais pétri d'humanité sur l'état du monde ou d'un monde par la seule force de la forme, en fait, fuyant le discours prêt à penser. Si l'on accepte les partis pris radicaux de la réalisatrice, le film finit par envoûter, telle une séance de chamanisme à l'issue de laquelle on en ressortirait quelque peu groggy.
La fièvre de Maya Darin, donc, est un film qui est en salle depuis le 30 juin.
Au revoir, au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien, voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine pour notamment parler bien du film qui fera l'ouverture du Festival de Cannes, le dernier film de Léos Carax. Et puis toi, Manu, tu auras un autre film.
Oui, un film québécois, Cuisipan.
À la semaine prochaine.